je rappelle, donc, est professeur d'anthropologie et de sciences religieuses à l'Université catholique de Louvain et partiellement aux facultés universitaires de la paix. Et donc, il va nous parler un petit peu de la foi catholique et des relations qu'on peut faire entre foi catholique et confiance, et notamment foi catholique et engagement. Donc, engagement dans un monde incertain. Voilà.
Merci. Alors, je vais tout d'abord essayer de vous convaincre que la question du spirituel et du religieux, ça a foncièrement à voir avec la question de la confiance au sens large. Hein. Concrètement, d'abord, je dénierais à quiconque ici de dire que la religion, aujourd'hui, en Belgique francophone, n'est pas devenue un lieu d'incertitude. On parle tant et plus de la crise du religieux, qui pour moi d'ailleurs est plus une crise institutionnelle, c'est-à-dire de transformation des formes du religieux, que du religieux en tant que tel. Mais pendant très longtemps, nous avons, je dis nous, c'est-à-dire les sociologues, anthropologues, historiens du religieux, analysé cette transformation plutôt en termes de crise, et crise notamment de foi et crise de confiance. Alors, deuxième élément qui me paraît fondamental, le terme confiance, il a la même étymologie évidemment que le terme fides, foi, hein, confides, confiance, c'est un truisme de parler de cela. Je crois qu'elle a deux dimensions et que c'est ces deux dimensions qui sont en train aujourd'hui de se transformer. Pendant longtemps, la question de la foi dans nos sociétés, c'était à la fois être fidèle à et croire en, c'est-à-dire un contenu, c'est-à-dire une affiliation, une croyance. Et puis en même temps, c'était adhérer, appartenir à un groupe. Donc il y avait la dimension contenu d'un croire, mais il y avait aussi groupe de croyants fidèles. La notion d'église, d'ailleurs, qu'il a qualifiée chez nous, ecclésiale, assemblée, réfère tout de suite à cette communauté d'appartenance d'une foi. Et donc, à travers la notion de confiance ou de méfiance, on peut éventuellement retrouver cette double dimension. D'une part, je dirais, d'un croire en termes de contenu également, d'un collectif d'appartenance. Et aujourd'hui, pour moi, dans le cadre global qu'a dépeint Guy Bajoie, cette double dimension est en transformation. Et c'est un peu sur celle-là que je voudrais revenir. Je reprendrai la phrase de la célèbre sociologue anglaise Grace Davy qui parle aujourd'hui de croire sans appartenir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un contenu de plus en plus formalisé par les individus, auto-construit avec tout ce que ça implique, détaché d'une appartenance collective stabilisée qui identifierait un croire spécifique. Avant, on avait les catholiques, les francs-maçons. Et être dans un groupe identifié à un contenu du croire, aujourd'hui, ça ne correspond plus du tout. Il y a une autonomie des deux, je crois que ça me paraît fondamental. Donc la confiance et la foi, au départ, pour moi, quelque chose de fondamental. Alors, bon, il y a des tas de choses sur lesquelles j'aurais pu vous parler, hein, le fait d'avoir trop de confiance. J'ai travaillé notamment sur les fondamentalismes, notamment les néopentecôtismes contemporains, qui sont des mouvements protestants, évangéliques, particulièrement confiants dans leur foi. J'aurais pu vous parler de la question de la conversion, sur laquelle j'ai travaillé aussi, puisque se convertir, ça implique inévitablement un rapport de méfiance et de confiance. Méfiance ou confiance dans le missionnaire, méfiance ou confiance également dans son propre croire qu'on va quitter ou qu'on va pas tout à fait quitter. J'ai travaillé aussi sur la notion de ruse, hein, on en avait entre autres débattu il y a quelque temps avec Guy Bajoie. La notion de ruse, elle implique inévitablement de faire croire, faire confiance également, et puis confiance en soi, faire confiance à l'autre, sans tout à fait nécessairement impliquer la totalité de la confiance dans les pratiques de ruse. Et donc à travers tout ça, la confiance se retrouve, et donc je crois que la question du croire, la question du religieux, la question du spirituel est foncièrement une question liée à cette question de la confiance. Alors, je vais me risquer aussi sur un champ plus précis. On a parlé beaucoup de politique sociale, on a parlé beaucoup de mutation finalement de l'état social, de l'état-providence. Focaliser l'analyse sur la question du religieux, c'est pour moi, entre autres, mettre le doigt sur un des lieux qui était, par essence, le plus touché par cette crise de la confiance, ou cette mutation du rapport à la confiance, ou cette émergence d'une crise de confiance liée à des mutations. Et aujourd'hui, quand on analyse le religieux en Belgique contemporaine, et mon exposé sera plus un exposé synthétique, je dirais, pour essayer de soulever les enjeux, mais différents éléments apparaissent. Alors, si vous regardez un petit peu toutes les analyses qui ont été faites ces 20, 25 dernières années sur le religieux ou le spirituel en Belgique contemporaine, on constate différentes dynamiques globales qui vont nous permettre petit à petit de faire émerger, et j'y viendrai dans un second temps, 5 fractures qui ne sont pas des fractures sociales, mais 5 fractures qui sont pour moi des mutations, justement, dont Guy parlait, dans le champ du spirituel et du religieux. Alors, premier moment, des dynamiques globales. Première dynamique, on constate que le spirituel et le religieux en Belgique francophone, et ici on n'est pas dans le monde, même si c'est un phénomène mondial, mais on est surtout bien en Belgique, hein, on avait la question sur l'Europe tout à l'heure. La Belgique religieuse apparaît aujourd'hui comme une étendue à dynamique urbaine prédominante. Ça signifie quoi ? Ça signifie aujourd'hui que la plupart des innovations spirituelles et religieuses, les nouvelles dynamiques, on parle de nouvelles dynamiques sociales, mais ici je dirais les nouvelles dynamiques spirituelles qui nous viennent entre autres de l'extérieur ou qui s'auto-instituent, qui émergent aujourd'hui, néo-chamanisme, néo-pentecôtisme, j'en ai parlé, d'ailleurs tous les néos signifient bien cette émergence d'une nouvelle logique sociale dans le religieux, mais elles émergent en ville. Essentiellement. Et quand je dis en ville, c'est surtout à Bruxelles, une logique plutôt de grande ville, de grands centres urbains connectés à la mondialisation, Bruxelles, son aéroport, son TGV, et puis surtout son image internationale, sa multiculturalité. Et de cette ville, elle va se disséminer dans la totalité du territoire belge. Donc, logique à dynamique urbaine prédominante, parce que la majorité des individus qui vont participer à ces nouvelles dynamiques spirituelles et religieuses sont des urbains, même s'ils vivent au fond des Ardennes, ils ont véritablement des comportements urbains tels que les sociologues les définissent, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps, et donc ils vivent essentiellement à la ville, c'est notamment les néo-ruraux ou d'autres, à la campagne comme ils vivent en ville. Et donc c'est véritablement ce mode de vie urbain qui est devenu le mode de vie de référence de ces comportements spirituels et religieux nouveaux. Deuxième élément qui s'embraye sur celui-ci, la manière de concevoir l'espace, et vous allez voir qu'en termes de spiritualité et de religion c'est fondamental, est de plus en plus un espace kinétique, mobile, et non un espace territorial. Alors c'est fondamental parce qu'auparavant la Belgique était assez simple, on parle de la Belgique en termes de Verzuiling en néerlandais, donc de piliers, société de piliers, où tout s'est construit finalement de la sécurité sociale, mais surtout dans le croire, sur cette territorialisation de l'espace spirituel. Concrètement, ben, il y avait évidemment au sein de chaque village, on savait presque identifier les lieux avec les zones catho, les zones laïques, puis avec une complexification entre libéraux, socialistes qui vient dans le courant du XXe siècle, etc. Mais l'espace social belge et donc l'espace religieux particulièrement était totalement territorialisé. Quitter un territoire, c'était trahir. Passer de l'ULB à l'UCL, c'était véritablement un scandale. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est devenu tout à fait monnaie courante, mais ça n'a plus du tout l'impact symbolique que ça avait à l'époque. Donc de cet espace territorialisé où chaque individu était avant tout ancré dans un territoire spirituel ou religieux, attaché, défini dans son identité par ce territoire, on va passer à un espace kinétique où c'est l'individu qui se déplace dans les territoires et qui va progressivement les redéfinir par sa mobilité notamment. Alors je reviendrai là-dessus et on pourra y venir dans le débat. Troisième élément de cette transformation du spirituel et du religieux, une primauté de plus en plus forte de la temporalité, j'aurais tendance à dire de l'instant, c'est-à-dire de l'expérience du vécu intérieur, sur justement le rapport à l'espace, la durée, les lieux, les territoires, les frontières, qui vont être de moins en moins fondamentaux pour définir justement ce champ. Quatrième élément de cette mutation, une primauté clairement, et je le vois, on travaille depuis 10 ans avec un collègue Jean-Pierre Hiernaud sur des entretiens qualitatifs, on a fait différentes enquêtes plus larges aussi, et chaque fois on a véritablement dans le religieux une primauté de la relation sur la territorialisation. Avant vous définissiez votre relation aux autres en termes de spiritualité ou religieux par rapport au territoire qu'il occupait. Ah, et lui c'est un maçon, ok, lui c'est un socialiste laïque. Ou... Aujourd'hui c'est la relation que j'occupe et que j'entretiens avec chaque personne qui va définir qui il est. Oui, bon, ok, lui est maçon, mais c'est un gars ouvert, on a discuté. Gabriel Ringlet qui dit chrétien et libre penseur, à la fois, tiens, comment c'est pensable. Ben, c'est la relation, de nouveau, qui permet de définir l'identité religieuse et spirituelle. Et ça, c'est fondamental également. Donc, affranchissement par rapport à cette logique du territoire, de l'ancrage, par rapport à la logique de la hiérarchisation également, hiérarchisation sociale. Ah, lui, c'est un curé, évêque, etc. Non, aujourd'hui, ou même curé, que ce soit dans le centre d'action laïque au CAL, ou que ce soit dans l'Église catholique, on avait les mêmes logiques, en fait, de toute façon. Mais on s'affranchit totalement de ces logiques de hiérarchisation aujourd'hui pour, de nouveau, des logiques de relations. Avec tout ce que ça pose, évidemment, comme enjeu, je reviendrai là-dessus. Et donc, c'est l'individualisme, et ça, c'est un truisme de le dire, c'est l'individualisme, évidemment, qui est la logique. Alors, l'individualisme, pas dans le sens, moyennant précision qu'expliquait Guy Bajois tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, finalement, une autonomisation du croire des individus, de la définition du sens profond de leur existence par rapport aux structures collectives, ou en tout cas aux structures collectives du monde que nous quittons. Et on est encore en peine de pouvoir vraiment totalement bien identifier comment ça se construit dans le monde vers lequel nous allons. Il y a trois éléments qui me paraissent toutefois importants. Enfin, un élément, c'est ce que j'appelle VIP. Cet individu religieux ou spirituel aujourd'hui... on voit clairement qu'il a une influence de plus en plus marquée, non pas very important person, mais voiture internet portable. Très clairement, il y a véritablement une logique de la technologie qui a une influence dans la reconfiguration des relations sociales. La voiture, internet et le portable, c'est des révolutions radicales dans les relations sociales et dans le religieux particulièrement. Enfin, en tout cas, c'est sur ça que je travaille, moi. La voiture, parce qu'elle permet de s'affranchir de la logique territoriale, de bouger, de se déplacer en tant qu'individu. C'est une excroissance, finalement, du rapport à l'espace de l'individu. Internet, parce que j'existe sans appartenir à quelque groupe que ce soit. Et je peux même avoir plusieurs identités parce que je peux avoir autant de mails pratiquement que je veux. Mais donc, on peut me toucher partout dans le monde par mon nom, avec une adresse IP, point, je suis touchable, etc. Et enfin, par le GSM, qui finalement est la même chose. Et le GSM, j'ai même pas besoin d'avoir ce portable. De plus en plus, je l'avais sur le terrain, puisque je travaille aussi dans le nord canadien. Ben, j'avais ce qu'on appelle un Turaya. Quand il n'y a plus de réseau, il y en a encore, puisqu'il y a les satellites. Donc partout dans le monde, je peux exister et je peux être lié à ces réseaux, qui sont des réseaux, chaque fois, en tout cas dans les deux derniers cas, de personne à personne. On dit d'ailleurs réseau routier, on dit d'ailleurs j'ai du réseau pour le GSM, et on dit le réseau pour Internet. Donc vous voyez que les choses se retrouve évidemment. Cinquième élément de cette reconfiguration, mais derrière cette primauté du relationnel que certains sociologues avaient d'ailleurs senti et souligné bien avant moi, c'est une stratégie relationnelle qui va petit à petit émerger. Une stratégie relationnelle qui est très différente parce qu'elle s'apparente plus, et un certain Bertrand Montulet avait déjà souligné cet élément, et je crois qu'à le revisiter empiriquement, ça me paraît très pertinent. Une stratégie de plus en plus pour les acteurs du champ spirituel et religieux qui s'apparente de plus en plus au jeu d'échecs versus le jeu de go. Alors le jeu d'échecs, c'est simple, il y a des tas de pièces différentes qui, en fonction de la place qu'elles occupent sur l'échiquier, vont être plus ou moins stratégiques, plus ou moins importants, et qui vont redéfinir sans cesse les relations qu'ils auront avec l'ensemble du jeu. Donc tout se redéfinit en permanence, et surtout chaque pièce a un certain type de relationnalité différente. Au niveau du religieux, c'est véritablement ça. Chaque individu va occuper des configurations particulières relatives à sa personnalisation, de sa manière de faire sens globalement. Alors auparavant, on était dans le jeu de go. Hein. Le jeu de go, ben, le rouge, le noir. Et l'objectif, c'est petit à petit de noyer l'autre en l'entourant. Donc c'est vraiment une logique du territoire, en fait. Le territoire laïque, le territoire catholique, par exemple, il y en avait d'autres. Hein, mais, et donc cette logique de l'occupation est petit à petit du phagocytage. Alors cette logique de la stratégie relationnelle dans le religieux et de la nodalité, elle fait émerger petit à petit, elle renforce vraiment des alliances interpersonnelles et accentue encore ce renforcement de l'individu comme référence sociale. Alors ça se voit notamment dans de nombreux entretiens, on en a fait plus de 250 maintenant depuis 2000, véritablement la personnalisation du sens de l'existence. Aujourd'hui, les individus. Auparavant, c'était évidemment, on parlait du credo, par exemple, au niveau catholique. On avait le même credo, d'ailleurs, dans le monde laïque, hein, avec notamment la charte du libre examen, etc. Mais donc, c'était véritablement adhésion à un collectif par l'adhésion à un croire spécifique défini. Aujourd'hui, la logique est radicalement différente. Ben, au vu de tout ce que je viens d'expliquer, c'est une personnalisation du sens qui se voit notamment, par exemple, quand on demande aux personnes de définir, au fond, c'est quoi pour vous la famille ou le prêtre ? Alors, dans les enquêtes quantitatives que les sociologues font encore aujourd'hui, on se rend compte, tiens, mais finalement, les choses ne bougent pas. Ils vous disent, la première valeur des Belges, c'est la famille. C'était le cas il y a 30, il y a 50 ans. Donc, les choses ne changent pas. Puis, quand vous creusez comment ils définissent la famille, vous voyez que ça n'a plus rien à voir, évidemment. Aujourd'hui, la famille, c'est quoi ? C'est avant tout un groupe de solidarité qui, face à l'incertitude du réel, permet de s'en sortir, permet d'émerger, permet de construire du sens par rapport aux choses. Alors, on leur dit, ben, donc, ton frère, là, avec qui tu as rompu, ah non, c'est plus ma famille, c'est à lui, on s'est plus vu, il compte plus pour moi. Par contre, mon meilleur ami, là, vraiment, lui, c'est vraiment un frère adoptif, il est vraiment important pour moi. Donc, entre la définition normative telle que la société que nous avons quittée ou que nous sommes encore en train de quitter définissait et vers celle vers laquelle nous allons, ben on a une redéfinition de ces éléments. Alors deuxième élément, c'est le prêtre. Là aussi, la plupart des sociologues du religieux d'il y a une vingtaine d'années vous disaient ben, chute des vocations, c'est la preuve, crise du religieux, etc. Et d'ailleurs, pour preuve, aujourd'hui, plusieurs sociologues vous disent tout en bas de la pile des valeurs, la famille c'est en haut, redéfinie telle que je l'ai dit, on trouve le politique, on en a parlé tout à l'heure, on trouve aussi évidemment le religieux, d'ailleurs ils font souvent jeu égal vers le plus bas. De nouveau, vous définissez, alors après enquête qualitative avec les gens, comment vous avez répondu, pourquoi vous avez répondu ça, donc c'est le prêtre de ta paroisse là, avec qui tu as été parlé, quand tu dis la religion tout en bas, réponse des interviewés dans l'entretien qualitatif, Ah non, mais lui c'est tout à fait différent, c'est pas l'institution, lui c'est le père Marcel, c'est un ami, c'est quasi la famille, lui, tout en haut. Donc vous voyez que les redéfinitions telles qu'on les voyait, évidemment, ne correspondent plus réellement à ce que socialement on définissait, à la normativité sociale telle qu'on l'a quittée. Donc la personnalisation du sens devient d'abord un problème pour le sociologue, parce qu'il faut sans cesse... croiser finalement les données, rentrer dans les logiques, dans des logiques qualitatives, mais surtout une personnalisation du sens à chaque individu, à chaque trajectoire individuelle, qui montre bien qu'on a véritablement cette autonomisation et cet accroissement de l'individualisation du croire et d'un individu autonome croyant par rapport à toutes les institutions du croire. Alors, dernier élément, c'est la diversification des logiques d'investissement. Concrètement, aujourd'hui, de plus en plus, face à un individu mobile, autonome, relationnel, on va avoir de plus en plus un turnover des investissements religieux et spirituels. Un turnover qui variera notamment de plus en plus, non pas en fonction de l'évolution idéologique de l'individu, mais de plus en plus en fonction des tranches de vécu et des expériences de vécu de l'individu. Alors que ce soit des lieux physiques réels d'ailleurs ou des lieux virtuels, je travaille entre autres sur une communauté de jeunes qui chaque jour réunit 2 à 3000 jeunes qui parlent de questions spirituelles et religieuses en Belgique, c'est quand même énorme, c'est des lieux qui existent et qui pour moi sont des lieux du social bien entendu. Alors je passe ceci. Alors ça c'est le contexte général des analyses, je pourrais rentrer dans chaque élément pour vous montrer évidemment que tout ça est étayé par de l'empirie, par des détails, je pourrais presque faire un exposé finalement par constat. J'en viens directement à, par rapport à cette notion de confiance sociale ou de confiance, le champ du religieux et du spirituel fait émerger finalement 5 fractures. 5 fractures qui me paraissent fondamentales. Alors je dirais pas qu'on passe nécessairement de confiance à méfiance en période de changement social, peut-être. Peut-être aussi qu'on est en train d'émerger vers une société où la confiance a un rôle très différent, où la méfiance devient un peu structurelle. Donc là, c'est en débat aussi. Moi, j'ai pas de thèse encore tout à fait établie par rapport à cette question-là. Alors, de 1 à 5, on va partir finalement des valeurs des individus pour arriver à leur manière de vivre collectivement et de s'engager collectivement. Je parle évidemment en champ religieux et spirituel, je ne parle pas du champ social, non. Il faudrait éviter toute généralité, donc précision oratoire de base. Alors, si vous reprenez un petit peu dans toutes les enquêtes sur les valeurs, enquêtes européennes, on a fait un baromètre avec la Libre Belgique l'année passée, enfin, toutes les enquêtes, en fait, qui portent sur la Belgique mettent en avant, j'ai repris le mot postmoderne, mais la discussion de tout à l'heure est tout à fait valable, les valeurs émergentes aujourd'hui, j'irai pas plus loin, on les retrouve évidemment dans le religieux. Individualisation, individualisme, j'en ai parlé. Épanouissement. La recherche du croire aujourd'hui, c'est une recherche d'épanouissement. Être épanoui, être bien dans sa peau, parmi les deux religions qui percent aujourd'hui, il y a évidemment le bouddhisme, avec derrière cette logique de bien-être, d'équilibre. La liberté individuelle, l'affranchissement par rapport à le fait de dire « je crois en, je suis chrétien, mais je ne suis pas catholique », beaucoup me disent, parce que je ne veux pas être assimilé à un collectif qui m'imposerait ce que je dois croire. Donc autonomisation, liberté du se croire. Parmi ces valeurs, expérimentation. Ben, expérimenter, je dois d'abord expérimenter les choses. Je ne crois plus ce qu'on me dise comme les experts me disent, je dois le vivre moi-même. Ou d'autres témoins doivent le vivre, et j'y crois, hein. Guy Gilbert, à l'ULB, fait ça le comble. Parce qu'il y a un croire expérimenté pendant 25 ans avec les Loubeurs, ça veut dire, là, lui, il sait ce dont il parle, même s'il ne croit pas tout à fait, il n'est pas du même camp, entre guillemets, mais ces camps-là, on n'y croit plus trop. Expérimentation, relativisme aussi par rapport à ces éléments, ce qui compte, c'est avant tout l'expérience vécue relative à l'individu. Sincérité, bah, qui dit expérience dit surtout sincérité dans l'expérience et dans le témoignage qu'on fait. Si vous n'êtes pas sincère, c'est que vous nous trompez et vous vous trompez vous-même dans l'expérience que vous avez fait des choses et qui vous autorise à pouvoir en parler. Alors tolérance à partir de ce moment-là, si la personne est sincère dans son expérience, bah, il faut être tolérant, elle vit quelque chose qui est respectable en tant que telle. Alors autre panier de valeurs qu'on retrouve chaque fois dans ces enquêtes et qui va de pair, la spontanéité, hein. Être spontané, c'est être sincère, c'est pouvoir expérimenter, évidemment. Et donc, bah, qui dit être sincère, être tolérant, on retrouve permissivité. Et derrière ça, il y a évidemment les valeurs de sexualité et de liberté par rapport à ces éléments-là. Intensité, hédonisme, puis la question du temps présent, je vais passer rapidement. Alors, convivialité, ça c'est important aussi parce que ça participe très souvent de cette notion d'épanouissement, mais au niveau collectif et surtout relationnel. Vous avez vu que le relationnel est fondamental, que la manière d'être en société devient très différente, beaucoup plus interpersonnelle dans des petits groupes conviviaux, donc la convivialité est mise en avant. Convivialité, mais aussi des liens beaucoup plus larges que les liens avec les structures sociales. Quand on demande aux individus avec quoi vous vous sentez lié finalement, mais la nature ressort très souvent. Alors il y a le jeu des médias, de l'écologie, etc. Mais il y a aussi le fait de dire je participe d'un tout qui dépasse simplement l'humanité. Donc convivialité humaine, mais aussi convivialité avec la nature, voire avec le vivant qui ressort également. Et enfin la notion d'égalité où on se demande parfois ce qu'elle signifie. Égalité ou équité, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est souvent égalité des chances, effectivement. Donc il faudrait peut-être la redéfinir. Alors ça, c'est le panier de valeurs montantes. À côté de ce panier de valeurs montantes, on a le panier de valeurs que je qualifierais de traditionnel, avec tous les bémols derrière le mot traditionnel. Alors, ben, parmi ce qui ressort, un, il y a la religion. Mais la religion, telle que perçue comme une institution collective qui régit un croire, définie normativement et défendue et imposée finalement par différents types de règles et par un appareil de contrôle. Alors ça, c'est terminé, évidemment. C'est les valeurs qu'on quitte et qui n'ont plus la cote. Vous voyez en quoi elles sont totalement opposées, en rupture par rapport à ce qu'on voit émerger. Deuxième élément. Les valeurs de l'autorité, évidemment, qui vont de pair, bah, qui dit individualisme, autonomisation, expérience personnelle, bah, autorité, hétéronomie, hein, position de modèle globaux, universaliste de l'extérieur, bah, ça pose des difficultés. Alors de nouveau, vous pouvez voir, évidemment, je traite dans le champ religieux, il y a des analogies, il y a des parallèles, évidemment, avec d'autres champs. Hein, je veux dire, l'État autoritaire versus l'État négociateur, ou dans le monde de l'enseignement, entre le savoir dispensé par l'autorité du professeur, ou bien le rôle que nous avons même, nous, professeurs d'université, de plus en plus, je crois qu'il y a des parallèles, mais ici, ils sont vraiment... En tout cas, je les ai travaillés sur la question du religieux. Alors, troisième élément, ben, rigueur morale. Hein, de nouveau, là, on le voit par rapport au champ précédent, expérimentation, épanouissement, sincérité. Chaque fois, ça va un petit peu de pair. Alors, obéissance. devoir, travail, responsabilité. Alors ça, c'est intéressant, c'est que la notion de responsabilité, elle ressort au départ dans les valeurs traditionnelles, être responsable. Pourtant, elle va être réutilisée, mais dans une redéfinition qui n'a plus rien à voir. Être responsable, c'est en fait être capable d'être autonome, hein, de pouvoir s'épanouir selon ses propres voies, de trouver finalement la manière qui correspond la mieux à expérimenter le collectif. Donc la responsabilité était pourtant un vieux thème en fait, de la foi notamment catholique, mais qu'on retrouvait également d'ailleurs dans l'athéisme militant qu'on a connu en Belgique pendant 2 siècles. Et donc la notion de responsabilité aujourd'hui, elle ne correspond pas à celle qu'on avait, elle est véritablement redéfinie. Et enfin, fidélité, durabilité, là aussi par rapport au fait de... temps présent, hédonisme, intensité, expérimentation, ben vous comprenez évidemment qu'on a véritablement une transformation. Alors je vous ai passé quelques valeurs qui demeurent d'un élément à l'autre, on pourra aussi y revenir. L'important c'était véritablement de voir cette première fracture qui crée une crise de confiance vis-à-vis de toutes les institutions spirituelles et religieuses qui tendaient à promouvoir ces valeurs traditionnelles là où finalement elles sont de plus en plus en contradiction apparente par rapport à ces valeurs promues par le système. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on passe comme noir sur blanc d'un système à l'autre. On est évidemment dans une zone d'entre-deux qui va probablement encore durer un certain temps. Et donc on voit émerger et s'affronter finalement ces deux paniers de valeurs. Alors derrière cette fracture de valeurs émerge pour moi une fracture des convictions. Fracture des convictions, alors ça c'est une enquête 2005, novembre 2005, où encore aujourd'hui un individu sur deux se dit catholique. Mais qu'est-ce que ça veut dire évidemment catholique quand on sait que d'après la définition de l'institution, il y a entre 6 et 10% de croyants pratiquants, c'est-à-dire en fait de croyants au départ tels que définis par l'institution. Et ils sont 48%, et dans une enquête qui va sortir sous peu, un petit peu moins, mais ça ne change pas grand-chose. Donc ils sont de l'ordre d'un Belge francophone sur deux ici à se définir comme catholique. Donc cette définition identitaire, on parlait des minorités identitaires, ça devient minoritaire, ne correspond pas à une pratique, à une foi, et on voit dissociation entre un contenu d'une part, et entre une identité collective d'appartenance de l'autre. D'ailleurs, l'athéisme est bien plus élevé que les fréquentations du centre d'action laïque. Hein. J'ai travaillé aussi avec lequel, et ils sont 2,5% par rapport aux chiffres qui sont là. Donc on a les mêmes proportions pratiquement. Et la montée en puissance, j'en ai pas parlé encore, des indifférents ou des agnostiques, je ne sais pas, qui explosent. Là, c'était 2005. En 2006, ça s'accroît encore. En 99, c'était un peu plus bas. Et les années 2000 voient vraiment monter en puissance ce qu'on appelle l'agnosticisme. Je n'ai pas de réponse à la question de Dieu, de la vie après la mort, ou je ne me pose pas la question. On verra plus tard quand j'aurai 65 ans et plus. Alors, pour preuve que la différence entre croyants et pratiquants et puis les autres, on a vraiment des différences importantes. Hein. Vous avez là des chiffres, croyants et pratiquants, c'est 26%, mais en ce compris les musulmans pratiquants, qui pratiquent en général de l'ordre de 50%, donc c'est beaucoup plus important en Belgique. Donc là, on a déjà une définition très différente. Et si vous prenez que les catholiques dans ces chiffres-là, c'est de l'ordre de 18%. Ça ne correspond de nouveau pas aux chiffres de l'institution. Pourquoi ? Parce que les individus autodéfinissent et ne se reconnaissent plus du tout de nouveau dans les définitions d'appartenance qui étaient les définitions institutionnelles. Alors, dernier chiffre, où trouvez-vous du divin ? Et là, de nouveau, c'est révélateur des valeurs dont je viens de parler. Dans la nature, 70%. Dans l'amour et l'amitié, c'est-à-dire du relationnel, c'est 60-56%. Et tout en bas, la Bible et la liturgie, ça veut dire en fait des éléments finalement institutionnels, 41 et 30%. Donc on est dans une inversion finalement des choses, et c'est les deux lieux de réappropriation par l'individu, la nature d'une part, le relationnel de l'autre, qui deviennent les lieux de vécu du divin, et à l'inverse les lieux institutionnels sont les lieux qui sont les moins reconnus comme tels. Donc vous voyez là effectivement qu'il y a une transformation radicale, il y a des tableaux et des tableaux qui corroborent ces éléments-là. Fracture de valeur, fracture de conviction, ou de la manière de redéfinir les convictions et le lien avec les appartenances. Troisième élément, fracture, et on pourrait discuter la question de la fracture, fracture ou fissure, des individus en tant que tels, de leur manière à eux de reconstruire finalement le sens de l'existence. Alors, ça se manifeste notamment parce que j'ai qualifié d'un nouveau religieux urbain ou post-urbain, il faudrait voir, parce que les villes d'il y a un siècle ne sont plus du tout les villes comme Bruxelles ou comme San Paolo ou comme New York, évidemment. Hein. On parle de la ville chaque fois avec les mêmes mots, mais c'est plus tout à fait la même réalité. La ville d'auparavant, c'était entre autres des quartiers. Chaque quartier se vivait un peu comme un petit village en soi. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La ville, c'est avant tout des réseaux et un mélange des choses. Donc ce nouveau religieux urbain qui émerge aujourd'hui en Belgique et qui devient petit à petit majoritaire, voit d'une part, un, le déclin de l'appartenance historique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Faible légitimité sociale des institutions religieuses. Et toutes, il y a une crise aussi au sein du judaïsme. On voit émerger petit à petit une crise et un discrédit au sein de l'islam institutionnel. Ce qui remplit les salles, c'est Tariq Ramadan, c'est un religieux qui fonctionne comme un religieux réseau qu'on retrouve dans toutes les spiritualités et religions, et je vais y revenir. Deuxième élément, c'est des croyances fortes et se renforçant au contact des autres fois. Donc on a à la fois une explosion des indifférents ou des agnostiques, et parallèlement, les minorités de plus en plus minoritaires de religieux se renforcent et deviennent de plus en plus fortes dans un cadre pluraliste d'affrontements religieux. Donc un double mouvement au sein de ces croyances. Deuxième élément, l'individu s'affirme clairement comme l'instance suprême de choix de la foi, et donc de sa confiance dans un au-delà, dans une divinité, dans un sens fondamental de l'existence. Mais finalement, l'instance suprême, c'est l'individu, et ce n'est plus une institution collective qui portait se croire avec des experts, les théologiens, qui pensaient pour lui. Tout le poids descend sur l'individu. Troisième élément. Mais clairement, c'est un certain post-matérialisme au niveau des valeurs qui est en train d'émerger. Alors là encore, c'est en débat et à discuter. C'est pour ça que j'ai mis en émergence. Avec la notion de responsabilité individuelle telle que redéfinie par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire pouvoir assumer sa foi ici et pas responsabilité par rapport à une morale qui serait imposée d'ailleurs. Donc c'est plutôt vraiment assumer ses choix dans la vie, assumer ses valeurs, assumer ses croyances et donc assumer son positionnement spirituel. Avec une priorité claire pour le développement personnel, ça veut dire le fait de progresser dans l'existence, de s'épanouir, de petit à petit pouvoir progresser en sagesse notamment. Et enfin, dernier élément de ce nouveau religieux, une recomposition des pratiques, alors ça se voit avec tout ce que j'ai dit auparavant, renforcement de l'intimité, parce que c'est l'individu qui est le lieu du choix, de l'émotion, de l'expérience, de la relation interpersonnelle, de la recherche qualitative d'expérience, et puis la personnalisation du croire avec des cérémonies de plus en plus personnalisées. De nouveau, toute obédience confondue. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que ma montre s'est arrêtée. Ok, ça va. Alors, bon, tout ça, je vais passer rapidement. Alors tout ça a évidemment des conséquences sur les pratiques. Hein. Concrètement, si vous prenez les pratiques religieuses, ben, jusqu'à quelque temps, le rythme traditionnel, c'était l'hebdomadaire. Aujourd'hui, toute religion confondue, ça a tendance à devenir un rythme mensuel. Donc c'est le rythme moyen, s'il fallait dire un rythme moyen, si ça a encore du sens, c'est le rythme mensuel. Fait place des pratiques qui sont de plus en plus occasionnelles et personnelles. C'est le sens qui, de la pratique, va être investi par l'individu qui va lui donner cette signification. L'événementiel émerge, évidemment. Ben, qui dit expérience et intensité, vous voyez, ben, c'est l'événementiel qui prend petit à petit le pli sur le régulier. Des pratiques de diversification aussi par rapport aux différents moments de la vie, avec des choix de dispositifs du sens en fonction de ces différentes tranches de vie. On va choisir, on va renouer avec une communauté religieuse à 35-40 ans parce qu'on a des enfants et qu'on se pose la question de leur éducation spirituelle et religieuse ou non, par exemple. Alors en plus, comme on a des enfants de plus en plus tard, ça n'arrange pas les choses pour certains. Le charisme du pasteur et la spécificité de la communauté deviennent fondamentales aujourd'hui. Évidemment, une personne qui a une expérience vraie qui me parle, et puis une communauté qui correspond à ce à quoi j'attends par rapport au moment de ma vie ou par rapport à mes valeurs et aux différentes attentes. Alors, je passe différents éléments et j'en arrive, et je clôturerai par là, à ce que j'appelle une fracture de l'engagement. Donc, la question de l'engagement social, elle était foncièrement liée auparavant à l'appartenance identitaire au territoire auquel on occupait. Vous étiez catholique, vous vous investissiez dans les mouvements de jeunesse, pas trop au scout, vous participiez à des mouvements jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne ou autre. Bref, l'engagement social était lié dans un monde territorialisé, pilarisé, était totalement déterminé par rapport au territoire. Dans une société pluraliste où l'individu construit son propre territoire, les choses fonctionnent très différemment. Dans ce cadre-là, on parle de plus en plus du passage de la militante lourde ou du militant ou des militants lourds, où on adhérait à un mouvement global en vue de changer la société, que ce soit marxiste ou que ce soit chrétien, avec des tas d'actions ponctuelles au sein de ce territoire qui permettaient de changer le monde, à une militance souple, où c'est des adhésions ponctuelles en fonction de l'évolution de la vie. Un jour, j'adhère à Greenpeace, puis je quitte et je vais adhérer au mouvement ouvrier chrétien ou au scout ou à d'autres choses. Et chacune de ces adhésions ponctuelles vont me permettre véritablement de marquer des actions sur mon environnement direct qui vont me permettre de mieux habiter la société. Et donc, alors que ce soit un groupe de partage interreligieux, que ce soit un groupe d'action forte anti-euthanasie, pour prendre deux cas extrêmes. Voilà. Alors, tout ça a des impacts sur la manière de fonctionner collectivement, mais comme d'habitude, je suis trop long. Et donc, j'en resterai là, on pourra y revenir au niveau du débat tout à l'heure.
Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour cette en fait, qui nous transporte vraiment dans un monde où tu as analysé le religieux. Et donc, la question qu'on peut se poser au sortir de ton exposé, c'est finalement, par rapport au thème de la confiance, Gloria Ricci, dans la première séance, disait, au fond, avec la modernité, on est passé d'une confiance haute qui reposait sur une confiance en la personne, voire une confiance en la personne divine, qui nous permettait d'accepter notre propre état de vulnérabilité, d'agir en toute incertitude, à une confiance de la raison, froide, basée sur la raison, sur les institutions, etc. Et donc je me demandais par rapport à ton exposé, etc., finalement, toi, comment vois-tu finalement le rôle aussi de la religion dans l'agir social, dans l'action sociale, et comment expliques-tu peut-être aussi certains phénomènes que tu observes d'ailleurs, qui sont le retour du religieux, mais d'un certain religieux, etc., par rapport à ce problème de la confiance.
Donc on a vraiment... je crois qu'on sort vraiment d'un moment où on était, en termes d'analyste, en termes de dire qu'il y a une disparition progressive du religieux, de plus en plus vers la question de dire il y a deux formes de religieux qui sont en train d'émerger, qui sont tout à fait fortes. Et ces deux formes, c'est d'une part des formes communautaires hyper identitaires, mais qui rejoignent tout ce que Guy a dit tout à l'heure, et qui vont s'organiser sur base, qui vont donner la priorité à deux types d'organisations collectives. D'une part, des personnes de charisme forte, mais qui sont tout à fait en marge de la logique institutionnelle traditionnelle. Alors Tariq Ramadan, c'est un exemple dans l'islam, par exemple, on en a beaucoup. Voilà, bon, peu importe, moi, j'ai pas de problème avec ça. Soit la logique paroissiale classique, alors je dis paroissiale au sens large parce qu'on la retrouve de nouveau, que ce soit au Cal, que ce soit dans les paroisses catholiques, et où là la confiance, elle a pratiquement disparu, c'est vraiment une méfiance vis-à-vis de la société dans laquelle on est, c'est véritablement une mise en cause de la société, et donc la notion de confiance ici, c'est surtout confiance dans la petite communauté, dans le petit reste, qui va petit à petit, à un moment élu de Dieu, va pouvoir s'en sortir dans un espèce de mythe, je dirais que de millénariste ou de fin du monde un jour. Donc ça, c'est la première alternative par rapport à ces mutations. Deuxième alternative qu'on voit émerger beaucoup chez les jeunes, c'est beaucoup plus la logique de cette individualisation, autonomisation dont j'ai parlé, et qui, elle, concrètement, se manifeste de plus en plus dans une prise de confiance, une construction de confiance dans un réseau de relations interpersonnelles fortes qui vont petit à petit permettre à l'individu de sortir d'une crise de confiance par rapport aux difficultés dans lesquelles il est. Donc ce réseau qui va être construit petit à petit, je parle bien ici au niveau spirituel et religieux, bâti de quelques maîtres spirituels, bâti de quelques personnes avec qui on a partagé intensément, va petit à petit recomposer un groupe affinitaire qui recouvre pas totalement la famille, pas totalement les amis, pas totalement seulement des gens du monde spirituel, et qui pour chaque individu va lui permettre petit à petit d'émerger et de reconstruire une confiance, mais qui est une confiance, je dirais, en construction perpétuelle, et donc qui est une confiance très fragile en fait, et qui pour moi, cette confiance nouvelle vers laquelle je vois émerger au niveau empirique ici, les groupes sociaux sur lesquels je travaille, qui sont ces groupements religieux de tous bords. Ça, c'est un peu les deux dynamiques vraiment fondamentales par rapport à la confiance.
Alors, je suppose que vous avez des questions. Je sais que vous avez des questions.
Dans votre schéma que vous montriez, qu'il y avait autant de pourcents de catholiques, c'était la question catholique ou chrétienne?
Donc, on a fait les deux. Donc on a fait les deux, et donc là c'était catholique, quand on fait chrétien on passe à 60%. C'est pour preuve, hein. Ça vous montre bien. Et mais maintenant dans une enquête qui va sortir, c'est encore un peu moins, mais on est toujours dans les mêmes pourcentages. Donc chrétien est toujours plus que catholique, bien entendu. Et alors quand on creuse les trajectoires des individus, on se croit, il n'y a pas un cas pratiquement qui est similaire. Certains se disent catholiques mais non chrétiens, ça existe. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont culturellement catholiques parce que l'école, l'université, mais qu'ils ne sont pas chrétiens parce qu'il n'y a pas eu d'éducation religieuse derrière, etc. D'autres disent qu'ils sont le même mot catholique, mais ils considèrent que derrière c'est l'éducation religieuse.
Le disait qu'il était de civilisation chrétienne.
Tout à fait, tout à fait. Guy.
Comment expliques-tu la montée de la valeur fidélité, contrairement à ce que tu disais, dans les relations de couple? Quand on prend l'évolution des enquêtes européennes sur les valeurs, on s'aperçoit que les jeunes sont plus attachés à la fidélité que les adultes et que les anciens, et que cette valeur, enfin, elle aurait du mal à continuer à monter parce qu'elle est à 97,98%.
Tout à fait, mais ça, c'est une question que j'ai souvent et qui est en fait assez, enfin, moi je dis assez simple, parce que concrètement, de nouveau, c'est la définition qui est mise derrière la fidélité qui n'est plus du tout la même. Auparavant, la fidélité, c'était la durabilité, en fait. Quand vous vous engagiez, il fallait durer. L'engagement, il était durable, notamment le mariage, qui était le symbole de cette fidélité, c'était un engagement durable. Aujourd'hui, les gens vous disent, à la fois, il faut être fidèle, mais en même temps, ça n'a pas de sens de se marier pour la vie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quand... Il faut veiller, être fidèle, c'est être fidèle dans l'expérience qu'on vit, au moment où on la vit. Et donc, c'est véritablement avoir une fidélité par rapport à cette expérience. À partir du moment où cette expérience n'est plus possible, c'est pas être fidèle. C'est aussi être fidèle à soi-même que de pouvoir rompre, nous disent les jeunes. Donc là, pour moi, il y a vraiment une évolution, cette transformation. C'est pour ça que je me méfie de plus en plus de ces énormes eurobaromètres où, en fait, en fonction d'une génération à l'autre, ils vont répondre aux mêmes questions, mais ils n'attribuent pas le même sens aux questions entre des gens de 65 et plus ou des jeunes de moins de 25. Ben, on va investir la même question avec des choses tout à fait différentes. Donc là, c'est l'exemple typique dans l'eurobaromètre, la fidélité. Si tu prends les 3-4 questions qui traitent de ça, ben c'est hyper ambigu parce qu'on peut y mettre finalement derrière un peu ce qu'on veut. Or, c'est fondamental pour moi de définir ce qu'il y a derrière, parce que sinon, on n'appréhende pas ce passage d'un monde à l'autre.
Oui.
Est-ce que c'est possible qu'il ne reste aucune place à la dimension collective de la confiance?
Non, mais
pour que tout le monde la comprenne.
Ça veut dire confiance dans les institutions, confiance dans... C'est une vraie question pour moi. Parce que concrètement, quand on voit partis politiques en crise, on leur demande, tiens, mais vous votez quand même bien pour certains. Ah oui, mais c'est des personnes. Alors, ils vous citent Louis Michel et autres. Et ça, j'ai... Enfin, peu importe. Mais confiance dans des personnes, oui, de nouveau. Dans des institutions, non. On voit l'hyper-personnalisation de nos campagnes. Il y a une évolution au niveau du politique. Aujourd'hui, vous pouvez voter de plus en plus. Enfin, on vous pousse à voter pour des personnes et plus pour des programmes. Il n'y a plus toujours de vote dévolutif. Bref, vis-à-vis du programme, c'est-à-dire un projet collectif de société, poussé par un groupe collectif qui est le parti, ben, émerge de plus en plus une démocratie de personnes et d'individus et des diropodes, enfin, des personnalités médiatiques. Et dans le champ religieux, c'est la même chose. Les gens vont vous dire, je suis chrétien parce que Guy Gilbert, c'est un mec bien, et là, je me reconnais tout à fait. Et la définition de l'institution n'est pas vraiment celle-là. C'est le programme, entre guillemets, électoral du catholicisme. Pour faire simple, il n'est pas celui-là. Donc là, il y a une vraie question par rapport aux institutions collectives telles qu'elles ont été définies depuis quelques siècles. Mais est-ce pour autant qu'il n'y a plus d'acteurs collectifs ? Est-ce qu'un forum sur Internet où il y a des gens qui se connectent tous les jours pour participer à des choses, ce n'est pas un lieu d'action collective ? Est-ce que les journées mondiales de la jeunesse qui rassemblent 800 000 jeunes, ou si vous restez dans une logique ancienne, vous dites alors « ouais, mais ils vont une fois là et puis c'est fini ». Si vous êtes dans une logique moderne, vous dites « mais non, ils sont dans cette construction de sens et c'est un moment phare pour eux ». Puis ils passeront peut-être à d'autres choses dans cette construction. L'altermondialisme se construit en partie sur, et c'est quand même en partie de l'action, sur ces lieux virtuels. Alors là, autre élément qui est très important, c'est de voir les gens dans leur trajectoire. Et on se rend compte souvent que ces lieux ne sont pas jamais des lieux uniques. Ils sont toujours des lieux qui jouent une fonction sociale, un rôle dans la construction de leur spiritualité, mais qui est à un moment précis de leur existence ou à une place particulière dans leur construction de foi ou de non-foi. Mais ça se complète avec des appartenances communautaires, ça se complète avec certaines institutions plus classiques qui parfois joueront un rôle très différent d'auparavant, qui n'auront plus toute la place, qui auront une place qui leur sera assignée par l'individu, mais qui vont se compléter. Je crois que ça, c'est un deuxième élément fondamental au niveau du collectif, c'est qu'il n'y a plus un seul modèle de fonctionnement collectif. Le fonctionnement dit institutionnel, qui était celui de la paroisse, par exemple, du centre d'action laïque, tel qu'on l'a vu, continue à exister, il n'a pas disparu, mais on a vu émerger à côté de ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui est stable, qui est un autre type de collectif, même trois autres types, c'est ce que je voulais dire après, mais on y reviendra, le fonctionnement en réseau, avec toute l'instabilité qu'il pose, les communautés identitaires, où l'individu, là, va construire un projet collectif, et il y a presque autant de communautés identitaires que d'individus aujourd'hui, parce qu'ils appartiennent souvent à plusieurs, et enfin des communautés autour de personnes à charisme qui vont attirer, où les gens vont s'identifier à une personne à charisme. Alors ces communautés, elles ont toujours existé. Ernst Troeltsch, au début du siècle, disait il y a la secte, il y a le mystique et il y a l'Église. Bon, aujourd'hui, les technologies nous permettent de rajouter le réseau, même s'il était en partie chez le mystique et peut-être chez la communauté auparavant, mais je veux dire, les catégories existaient. Simplement, l'institution n'en reconnaissait une et les médias n'en portaient qu'une. Aujourd'hui, les deux autres plus celles du réseau, elles sont montées en puissance et elles complètent l'autre et donc elles la mettent en question. Et donc, pour moi, il y a quatre types ou quatre manières, en tout cas, on en a identifié, nous, quatre manières d'agir collectivement. Donc, jamais penser à un unilatéralisme du fonctionnement collectif dans ce monde, en tout cas du spirituel et du religieux.
Quand vous définissez au début la confiance, il y avait deux dimensions qui étaient plutôt du contenu, on va dire la fidélité, le collectif d'appartenance, la question de l'adhésion. Ce que j'avais compris, c'est qu'au début de votre démonstration, vous démontrez qu'en fait, les deux se transformaient, mais vous pouvez même peut-être maintenant résumer la confiance uniquement par rapport au contenu. Ce que vous venez de dire sur les collectifs d'appartenance, etc., c'est que non, cette deuxième dimension était toujours présente, mais complètement transformée.
Et voilà, complètement transformée et avec une autonomisation entre les deux. Aujourd'hui, il y a des communautés dont les contenus et la forme correspondent, les communautés identitaires, entre autres. Et puis, on a des tas d'autres communautés où les deux ne correspondent plus. La paroisse, aujourd'hui, c'est des gens qui pensent des choses. Alors, ça a été le cas auparavant. Aujourd'hui, ça s'est accentué de manière majeure. On a des tas de gens qui participent à leur paroisse, mais qui savent même plus c'est quoi le credo, par exemple, dans le monde catholique, qui le disent plus, mais qui vont surtout là, parce que pour eux, c'est important socialement, pour les enfants, pour d'autres choses. Ce n'est pas des choses qu'on rencontrait ou qu'on rencontrait de manière hyper marginale il y a 50 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils savaient à l'époque, il y a 50 ans, ce que ça signifiait, etc. Mais les termes et les mots, c'était un lieu de rassemblement collectif et d'identification collective.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'exposé d'Olivier Servet ou sur l'exposé de Guy Bajor ou sur les deux, le rapprochement qu'on peut faire entre les deux ?
Oui, quel est l'avenir du spirituel ?
Comme disait Guy tout à l'heure, très difficile. Nous, on est des analystes de ce qui se passe, mais pouvoir anticiper les choses, c'est toujours un jeu dangereux. La seule chose qu'on constate en tant qu'analyste, c'est qu'il y a une effervescence aujourd'hui du religieux et du spirituel qui va dans de multiples directions, mais il n'y a pas une léthargie. C'est lié au fait que on s'est focalisé pendant longtemps en disant il y a crise religieuse parce que regardez les églises se vident, mais autant elles se vidaient, elles se remplissaient ailleurs où là les caméras du sociologue n'étaient pas. Aujourd'hui on est face à un magma très complexe dont on identifie en tout cas quatre modes d'organisation sociale collectif. Je crois que la question de la confiance qui est le thème de ce séminaire, elle est probablement en partie un élément fondamental pour pouvoir expliquer cette nouvelle cristallisation. C'est le fait de dire il n'y a plus d'institution crédible aujourd'hui ou totalement crédible qui peut prétendre à monopoliser le sens de l'existence. Donc face à ça, les individus sont en recherche de confiance pour leur existence et vont l'investir de manière différenciée.
Tu dirais un peu ce déficit de confiance institutionnelle dans les institutions et dans ce qui a constitué notre modernité, tu dirais ça à une certaine montée de nouvelles spiritualités religieuses
Entre autres, un psychiatre dirait oui, mais il y a la montée en puissance. Non, mais de la dépression, par exemple, et qui pourrait. Mais moi, je dis oui, ça répond en partie, certainement, à cette question de la confiance. Nos sociétés, pendant plus de nombreux siècles, ont basé leur confiance dans les élites, dans la structuration institutionnelle, sur le fait qu'il y avait une charpente du croire qui était là et qui disait ce qui devait être à quelle place. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc face à ça, les individus vont reconstruire finalement leur propre charpente.
Une dernière question d'Anne et de Madame aussi.
Quand vous expliquez au départ que vous êtes dans votre terrain d'analyse, donc à l'œil francophone, on comprend qu'il y a un clivage qui se fait sur certaines spiritualités. Je me demandais si le mouvement que vous observiez, donc le changement des valeurs, était observable également, quel que soit, vous avez parlé tout à l'heure du judaïsme, dans d'autres religions, telles que l'islam par exemple, où, entre guillemets, quand on lit la presse, on a l'impression que ça répondrait, entre guillemets, mieux à ce type de valeur. Mais quand je vous entends, je me demande si, en fait, ce n'est pas une erreur dans le discours que nous, autour, si c'est moi qui me...
Non, mais je crois que les médias, c'est une présentation de la réalité. Je crois qu'il faut vraiment faire attention. Enfin, je vais pas prendre un exemple catholique que je connais le mieux, mais une de mes collègues chercheuses à Louvain travaille sur l'islam. Et l'islam, c'est le même type de dynamique, quoi. Entre un islam identitaire qui correspond aux dynamiques et au sein du judaïsme de même, on a des conflits majeurs avec des tentatives de discrédit de l'exécutif des musulmans de Belgique qu'on a à peine institué sur un modèle en fait, qui est l'ancien modèle, au nom de dynamiques identitaires et de religieux, soit fondamentalistes, soit autres. D'ailleurs, il n'y a pas identitarisme et fondamentalisme ne vont pas toujours de pair. Et dans le judaïsme, on a vraiment la même chose. Entre synagogues qui s'affrontent, à Bruxelles, il y en a deux, particulières, libérales d'un côté, qui est beaucoup plus sur ces dynamiques d'auto-institution du croire de l'individu tel que je l'ai décrit. J'ai été faire des observations à plusieurs reprises dans sa forêt. Et puis les traditionnalistes plus classiques, tels qu'on la voit notamment à la grande mosquée, à la grande synagogue à Bruxelles, rue Royale, et où là on a des dynamiques beaucoup plus classiques. Donc ça traverse vraiment tout à fait. Alors parfois, et pour des raisons identitaires notamment, de manière moins visible ou moins forte, notamment parce que c'était des minorités et que de statut de minorité, ils sont passés au discours identitaire. Et donc on a eu tendance à les assimiler tous au discours identitaire. Mais il y en a qui portent le discours, entre guillemets, de l'institution. Il y en a qui portent les différents discours dont j'ai parlé, tout à fait clairement. Oui, tout à fait, tout à fait.
Moi, je voulais poser une question à Guy Bajoie. Vous avez parlé d'équité à la fin de votre exposé en disant que c'était l'égalité des chances pour vous. Mais quand on voit, est-ce que vous pensez que, par exemple, le commerce équitable peut se rapprocher de ce sens d'égalité des chances, ou bien est-ce que c'est plutôt une valeur collective de justice?
Donc, quand je dis que l'égalité des chances inspire les politiques sociales, je ne veux pas dire que l'égalité des chances est réalisée dans la société belge.
Mais
je veux dire qu'elle est un principe de légitimité, si vous voulez, ou idéologie, si vous voulez, hein, principe de légitimité qui permet de fonder une politique. De légitimer, de justifier une politique différente de la politique menée avant, que l'on a par ailleurs délégitimée en disant du mal, de l'assistance et des profiteurs. Et donc, que l'égalité des chances constitue, si vous voulez, une nouvelle valeur, un nouveau principe, un nouveau principe dominant qui permet à l'État de dire ma mission ce n'est pas d'assurer l'égalité, c'est d'assurer l'égalité des chances. Donc autrement dit, si je peux dire qu'avec les ressources de l'État, j'ai offert à tous les handicapés qui ont le même problème des chances de réinsertion, ou à tous les chômeurs, ou à tous les jeunes, j'ai fait mon boulot. Le reste, c'est vous. Le reste, c'est vous individuellement qui devez vous débrouiller pour profiter de la chance que je vous ai offerte, que la société vous donne, et faire avec cela le mieux que vous pouvez. Si maintenant ça ne va pas, vous vous cassez la figure, ça n'a pas marché, alors vous pouvez toujours revenir, nous avons d'excellents services d'insertion professionnelle, nous avons d'excellents services d'assistance psychologique pour les couples qui ont des difficultés, nous avons d'excellents experts dans tous les domaines pour si vous avez vécu un traumatisme, donc nous sommes pleins d'attention pour vous. Mais nous n'allons pas non plus vous donner la béquille mensuelle du CPAS ou du chômage sans au moins vérifier que vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour vous en passer. Donc là, il y a quand même une idée très qualitativement différente que j'ai traduit par, au lieu de « à chacun selon ses besoins », étant donné son utilité, par « à chacun selon son effort et son mérite, étant donné sa créativité ».
Son activité.
C'est à chacun selon ses besoins, étant donné sa créativité.
Ouais. Et donc un rôle de l'État qui est quand même très différent.
Ouais, du coup, le rôle de l'État est très différent.
Respecter la procédure.
Pour vous donner un exemple que je donne toujours, quand on a créé les premières, en 1925, les premières commissions d'assistance publique, on les a appelées comme ça, sans aucune honte. La honte, c'était pour ceux qui devaient y aller. Hein? Parce qu'étant donné l'idéologie du travail dans laquelle ils étaient, celui qui devait aller à la commission, à l'assistance publique, moi je me rappelle dans mon village quand j'étais petit, il y avait des gens qui devaient aller à l'assistance publique, c'était évidemment la honte. Et on appelait ça, sans vergogne, la commission d'assistance publique. En 1976, on a créé une nouvelle loi, dont l'article premier est que tout homme ou tout humain, tout être humain, a droit à la dignité. Donc déjà la dignité, au nom de laquelle il ne fallait pas faire de l'assistance, l'assistance était contraire à la dignité, était dans l'article premier de la loi sur les CPAS. Et on a appelé ça Centre public d'aide sociale. Donc le mot assistance a disparu, on a été remplacé par aide. Maintenant, on est en train de créer les centres publics d'action sociale, c'est-à-dire que on est passé de l'assistance à aide et de aide à action sans changer le A. La lettre est restée la même, Mais elle ne veut plus dire la même chose. Mais
ça reste de l'assistance dans l'été, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous pour faire des actions.
À l'heure actuelle, ils arrivent en disant j'ai droit à. Voilà. Oui. Parce qu'ils connaissent beaucoup plus qu'avant.
Oui, donc ils arrivent avec ça et on leur rétorque.
Vous avez des obligations.
Vous êtes un individu, que faites-vous pour vous en sortir?
Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan? Quel est votre projet d'intégration? Quel est votre projet d'intégration?
À partir du moment où ils ne réalisent pas qu'ils ont une obligation et qu'ils ne veulent pas subir leur obligation, ils tombent dans la marginalité.
Ils ont pas?
Ils tombent dans la marginalité.
Oui, tout à fait. Oui, mais dans la marginalité, ils passent au CPAS où on leur dit grosso modo la même chose.
Mais pire, un banque alimentaire et autres.
Voilà, je vous propose de clôturer peut-être sur cela, sur cette idée. Sauf si vous aviez encore une question à poser. Je voudrais, en mon nom personnel et en votre nom, remercier nos deux conférenciers qui ont vraiment, brossé deux tableaux assez différents de notre société moderne, mais combien interpellants pour le concept de confiance et pour la place de la confiance dans la société. Donc, vraiment, je voudrais les remercier. Vous donnez à tous rendez-vous le 17 avril à 16h de nouveau pour deux nouvelles conférences sur la confiance, donc par Éric Brousseau et Olgir Cuti. Les deux vont aborder la notion de contrat, hein, donc cette notion de contrat et confiance, et donc contrat et confiance dans les ensembles organisés, que sont les entreprises, mais aussi les organisations, les administrations, etc. Et donc ça promet d'être très intéressant aussi. Voilà. Au 17 avril donc, et bon retour chez vous.
Je ne sais pas si vous m'en souvenez. Je me doute bien qu'il n'y a aucune prétention normative dans ton propos. Pourtant, j'ai quand même l'impression un petit regret par rapport à la façon dont c'était à fond.
Non,
pas du tout. Alors ça va, ça va. J'étais. Ok, parfait. Alors, non, mais ça va, parce que je suis bien d'accord avec ça.
Non, mais moi je crois que la réponse de Guy est tout à fait. On n'a pas à juger, on est.
D'accord, c'est parce que franchement, je me doutais bien aussi que c'était pas possible de concréter justement ce sujet de la stabilité. La stabilité des institutions, oui d'accord, la stabilité, mais aussi la rigueur, la.
Ah non, mais stabilité pour moi c'est très négatif.
Olivier, à défaut de religieux, vous êtes pas, s'il vous plaît.
D'accord, alors pardon.